VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 anniversaire du lundi 2 juillet 2018. Abdourahmane Dia en direct de Washington. Voici les titres. Sommet de l'Union africaine à Nouakchott. La sécurité, l'immigration et la lutte contre la corruption au menu des discussions. Ouverture ce matin à Diffa au Niger du procès d'une cinquantaine de membres présumés de Boko Haram. Manifestation de policiers dans le nord-est du Nigeria, ils demandent le paiement d'arriérés de salaire. L'initiative de l'Union africaine pour la paix en Centrafrique ne fait pas l'unanimité.
Lorsque le peuple n'est pas d'accord avec une démarche que vous avez engagée, la meilleure façon c'est de se ressaisir, de s'arrêter et de demander l'avis du peuple.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Et puis le président Donald Trump et plusieurs dirigeants ont félicité Andrés Manuel López Obrador, le nouveau président mexicain. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Les dirigeants de l'Union africaine ont créé un observatoire sur la migration et le développement lors du sommet qui se tient à Nouakchott. Un sommet qui devait parler de lutte contre la corruption, mais qui a été dominé par les questions de sécurité. Bagassi Koura.
L'Observatoire africain pour la migration et le développement, dont la mise en place a été proposée par le Maroc, sera basé à Rabat, selon le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, à Nouakchott. Selon M. Bourita, cet observatoire aura pour mission de fédérer les stratégies nationales des États africains et de mieux interagir avec les partenaires étrangers. Les dirigeants africains devaient se pencher également sur la lutte contre la corruption, la guerre civile au Soudan du Sud ou le Sahara occidental, dont le drapeau a flotté pour la première fois à Nouakchott avec celui des autres pays membres de l'Union africaine. Le président français Emmanuel Macron est arrivé dans la capitale mauritanienne après une série d'attaques ce week-end qui ont fait plus d'une dizaine de morts au Niger et au Mali.
Parlant du G5 Sahel, je veux évidemment ici avoir une pensée pour nos amis maliens suite aux attaques lâches, odieuses des terroristes au PC de Sévaré puis à Gao. Plusieurs militaires français ont été blessés, ils sont en cours d'évacuation vers la France, mais ce sont des civils maliens, des civils africains qui sont tués par le terrorisme et qui sont les premières victimes de ces barbares que nous combattons.
C'était le président français Emmanuel Macron. Par ailleurs, les dirigeants de l'Union africaine ont décidé de soutenir la candidature du Rwanda pour diriger la francophonie lors de leur sommet à Nouakchott. L'Union africaine a demandé à tous les membres de la francophonie de soutenir la candidature du Rwanda en la personne de la chef de la diplomatie rwandaise Louise Mushikiwabo à l'Organisation internationale de la francophonie, a déclaré un responsable d'un pays francophone présent au sommet de Nouakchott. Ouverture ce lundi à Diffa au Niger d'un procès d'une cinquantaine d'éléments de Boko Haram. C'est la troisième fois que des présumés terroristes arrêtés dans le cadre de la lutte contre le groupe de Boubacar Chekaou y sont jugés. Un procès qui se tient au lendemain d'une attaque justement attribuée à Boko Haram dans la région de Diffa et dont le bilan fait état d'une dizaine de militaires nigériens tués. Abdul Razak Idrissa.
Les autorités nigériennes n'ont toujours pas communiqué officiellement sur le bilan de cette attaque, mais le porte-parole du ministère de la Défense nationale confirme à VOA Afrique une dizaine de soldats tués et quatre autres qui ne répondent toujours pas à l'appel. Cette attaque intervient moins de deux mois après la triple explosion kamikaze dans la ville de Diffa qui a fait 6 morts. Elle intervient également la veille de 2 événements majeurs. D'abord, l'ouverture ce lundi dans la ville de Diffa du procès d'une cinquantaine d'éléments de la secte Boko Haram. C'est le 3e procès du genre depuis le début des incursions de la bande à Chekaou sur le territoire nigérien. Les 2 premiers procès se sont tenus à Niamey, la capitale. Le 2e événement majeur, c'est l'anniversaire ce 2 juillet de l'enlèvement de 39 femmes et jeunes filles par Boko Haram dans le village de Ngalewa, toujours dans la commune de Ngingimi, 1 an jour pour jour que l'on est sans nouvelles de ces femmes et de ces jeunes filles pour la libération desquelles une mobilisation d'activistes nigériens s'est mise en place depuis des mois. Abdoulaye Razak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Au Nigeria, dans le nord-est du pays, environ 2000 policiers ont manifesté pour obtenir le paiement d'arriérés de salaire. Ils ont tiré des coups de feu en l'air et des gaz lacrymogènes à Maïdougouri, berceau du groupe djihadiste Boko Haram. Morgan Guerriek.
Des membres des unités de la police mobile réclament des arriérés de soldes et de meilleures conditions de logement. Des manifestants affirment ne pas avoir été payés depuis 6 mois. D'autres disent avoir été contraints de dormir à la Belle Étoile, faute de logement. Ils ont donc bloqué la principale route près du quartier général de la police à Maïdougouri. Ils ont usé de gaz lacrymogène et ont tiré des coups de feu en l'air en scandant des slogans comme « Payez nos indemnités ou il n'y aura pas de paix ». Ces agents s'occupent généralement des contrôles au checkpoint et patrouillent avec l'armée nigériane. Depuis la chute des prix du pétrole en 2014, des membres du personnel universitaire, des travailleurs des secteurs pétroliers et même des médecins ont mené des mouvements de grève pour obtenir le paiement d'arriérés de salaire.
En Côte d'Ivoire, un avocat représentant plusieurs candidats indépendants et de l'opposition dénonce des irrégularités dans les opérations de révision des listes électorales. Lors d'une conférence ce lundi à Abidjan, Maître Claver Ondri a déclaré que dans plusieurs villes, des personnes se sont fait recenser hors de leur lieu de vote. Au Cameroun, un commissariat de police a été attaqué ce week-end par des hommes armés à Buea, chef-lieu de la région anglophone du sud-ouest. Au Malawi, un rapport confidentiel du bureau anticorruption accuse le président Peter Mutharika et le parti au pouvoir de corruption à 1 an des élections générales. L'opposition demande la démission du président. Des responsables de 3 partis d'opposition comoriens ont été condamnés à 20 jours de prison ferme pour avoir manifesté contre le référendum constitutionnel prévu le mois prochain. Cette peine est assortie 1 an d'emprisonnement avec sursis en cas de récidive. Et puis les autorités marocaines ont annoncé l'arrestation ce lundi de 4 djihadistes présumés. Ils sont soupçonnés d'être liés à l'organisation État islamique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mexique, Andrés Manuel López Obrador a obtenu une large victoire hier à l'élection présidentielle, offrant un succès historique à la gauche. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Andrés Manuel López Obrador a obtenu un peu plus de 53% des voix. L'ancien maire de Mexico a devancé le conservateur Ricardo Anaya, qui a recueilli environ 22%, et José Antonio Meade, du parti au pouvoir, 16%. Les perdants ont reconnu leur défaite et félicité le président élu. C'est la première fois de l'histoire moderne du Mexique que la gauche accède à la présidence. Après 2 échecs successifs, López Obrador et son parti ont aussi décroché 6 postes de gouverneur sur les 9 qui étaient en jeu. Pour la première fois, une femme, Claudia Sheinbaum, fidèle de M. Obrador, sera à la tête de la capitale mexicaine avec ses 20 millions d'habitants. López Obrador prendra ses fonctions en décembre prochain. Il devra lutter contre la corruption et tenir sa promesse de remettre à sa place le président Trump qui a menacé de rompre l'accord de libre-échange. Le président américain l'a félicité et s'est dit prêt à travailler avec lui. Pour sa part, M. Obrador a dit souhaiter une relation d'amitié et de coopération avec les États-Unis.
Un second bateau humanitaire d'une ONG venant en aide aux migrants en Méditerranée a été bloqué dans le port de Malte. C'est ce qu'a annoncé l'association allemande Sea-Watch qui a affrété ce bateau. Le Sea-Watch 3, qui voulait reprendre la mer lundi, a été bloqué à Malte sans aucune raison légale fournie par les autorités, a affirmé l'ONG sur son site internet. La semaine dernière, les autorités maltaises avaient déjà ordonné la mise sous séquestre du Lifeline, un navire humanitaire avec 233 migrants à bord. Et puis la police fédérale américaine a annoncé l'arrestation d'un homme proche des réseaux sociaux d'Al-Qaïda. Il est suspecté de planifier un attentat à Cleveland ce mercredi, jour de la fête nationale des États-Unis. Voilà pour le journal. On passe tout de suite à l'édition spéciale de la Coupe du Monde avec vous, Nicolas Pinon. Bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous. Le Brésil s'est qualifié pour les quarts de finale du Mondial 2018 après sa victoire sur le Mexique 2-0 cet après-midi en Russie. Tout s'est joué en seconde mi-temps grâce à Neymar et Firmino. Le point sur ce match avec l'envoyé spécial de VOA Afrique en Russie, Andinsi.
Après une entame de rencontres difficile, surtout durant les 20 premières minutes où ils ont été malmenés par les Mexicains, la formation brésilienne a sorti la tête de l'eau en prenant le jeu à son compte, sans pourtant réussir à marquer durant la première période face à une très bonne équipe mexicaine qui a fait mieux que se défendre. À la reprise, la bataille du milieu de terrain s'est intensifiée, mais cela n'a pas empêché aux Brésiliens d'ouvrir le score à la 51e minute par l'intermédiaire de Neymar. Le joueur du Paris Saint-Germain a effectué une talonnade pour son partenaire William. Ce dernier a percuté sur le côté gauche avant d'adresser un centre fort à ras de terre. La star brésilienne, en vrai renard des surfaces, s'est jetée pour tacler le ballon au fond des filets. Menés au score, les partenaires de Chicharito tenteront de revenir au score sans succès. Au contraire, c'est le Brésil qui va inscrire le but du chaos à la 88e minute grâce à Firmino. Suite à une action bien menée par Neymar, l'ancien barcelonaire du FC Barcelone qui s'est retrouvé seul face à l'excellent portier mexicain Ochoa a perdu son duel. Mais l'attaquant de Liverpool qui avait bien suivi a poussé la balle dans le but vide. Avec deux buts d'avance, rien ne pouvait plus arrêter les Brésiliens qui vont disputer les quarts de finale pour la 17e fois de l'histoire. Ahmed Nsi, Samara, VOA Afrique.
Et actuellement dans la deuxième huitième de finale, match fou entre les Belges et les Japonais, 0-0 à la mi-temps, puis le Japon qui menait 2-0 et petit à petit les Belges qui sont revenus 2-0 à 7 minutes de la fin du match, un match complètement fou. On rappelle que sur cette rencontre, c'était les Belges qui étaient favoris. On va parler à présent de cette nouvelle sensation hier en Russie où le pays organisateur a éliminé au tir au but l'Espagne pourtant favorite dans un stade Loujniki en folie, c'est Akinfeev, le gardien russe qui a été le roi de la soirée en arrêtant deux pénaltys à l'issue du temps réglementaire et des prolongations avec un score de parité, 1-0. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
À mi-parcours d'une compétition tant espérée, où le doute n'était pas permis, aussi bien au niveau de l'organisation que de la participation populaire, l'équipe de Russie, à la surprise générale, est en train d'offrir à la FIFA l'ingrédient sportif indispensable à la réussite de ce grand rendez-vous mondial. Un parcours honorable du pays organisateur. C'est un exploit si l'on tient compte de la qualité trop moyenne d'une sélection dont les performances se conjuguent plus au passé, à une période où le pays s'appelait URSS. Et le premier champion d'Europe en 1960, plusieurs fois finaliste, demi-finaliste ou quart de finaliste de l'épreuve, ainsi que de la Coupe du Monde, plusieurs fois champion olympique, avec en prime, sur le plan individuel, 3 ballons d'or à l'appui. Mais si les joueurs russes ont envie de se mettre au niveau de l'événement, c'est surtout pour une raison symbolique. Honorer la mémoire d'un des joueurs qui ont le plus œuvré à l'évolution tactique de ce jeu. Pourtant, à partir d'un poste jusque-là ingrat. Il s'agit du légendaire portier du Dynamo Moscou, Lev Yashin, le seul gardien de but ballon d'or de l'histoire en 1963. En effet, Yashin a sorti le dernier rempart de sa ligne, se transformant en relanceur décisif, organisateur du jeu défensif, aboyeur utile et maître de sa surface, tout en restant l'essentiel, c'est-à-dire une muraille infranchissable, ce qui lui a valu le surnom mérité d'araignée noire de Moscou. Le fait que le gardien russe Akinfeev ait été décisif dans les tirs au but victorieux contre l'Espagne est un signe supplémentaire que l'ombre de l'immense Yashin plane bien sur le tournoi. À la sélection, d'en profiter au maximum et de poursuivre son ascension. À bientôt.
Merci Jules Valentin. On rappelle que l'Espagne rentre à la maison et qu'Andrés Iniesta a annoncé la fin de sa carrière internationale sous le maillot espagnol. Dans l'autre huitième de finale hier, la Croatie a eu très chaud et s'est qualifiée au pénalty également face au Danemark. Demain, la Suisse affronte la Suède et l'Angleterre, la Colombie. Voilà, Abdourahmane, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde.
Voilà, merci beaucoup Nicolas Pinot.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. Et on passe au dossier du jour. Rencontre aujourd'hui à Nouakchott, en marge d'un sommet de l'Union africaine entre le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel. Sur les plus de 400 millions d'euros promis, seulement 500 000 euros sont disponibles. Vendredi dernier, le quartier général de la force du G5 Sahel à Sévaré a subi une attaque terroriste qui a fait 3 morts. Pour analyse, Eric Manakiza a joint à Niamey l'éditorialiste et directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Événement, Moussa Aksar.
Le problème il est réel, vu ce qui se passe sur le terrain quand on regarde les différentes attaques qu'il y a eu au QG même du G5 Sahel et avec d'autres attaques le long des frontières des pays concernés, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les chefs d'État ont mis, il faut le dire, la charrue avant le bœuf. Ils n'ont pas su, dès au départ, mobiliser les ressources nécessaires, les hommes nécessaires à cette mission, avant de vendre ces téléphones blancs-là aux populations et qui sont meurtries par les attaques des djihadistes.
Il y a cette question de l'argent.
Ça fait un bout de temps que les chefs d'État de la région, notamment le président Issoufou, disaient que très bientôt, la force du G5 Sahel va monter en puissance. Et après, nous n'avons rien constaté parce qu'il se trouvait qu'il n'y avait pas des ressources nécessaires avec les promesses de certains pays occidentaux et des pays du Golfe. Donc l'argent n'a pas atterri dans les caisses. On a un espoir aux populations qui subissent encore les affres de cette insécurité et le long de frontières et même dans les grandes villes. Nous pensons que ce n'est peut-être pas une question d'argent, mais plutôt une question de volonté. Donc on n'a pas besoin de faire tout cet entamage au moment où les djihadistes se renforcent davantage.
Que faut-il faire pour rendre opérationnelle cette force du G5 Sahel?
Bon, écoutez, tout d'abord, il faudrait mettre en application les droits de poursuite, échanger davantage les renseignements entre les pays qui sont concernés. Ensuite, avoir des ressources pour les ressources vont venir après la mise en place des hommes sur le terrain. On ne peut pas dire qu'il faut mettre les hommes d'abord, avoir les ressources avant d'engager. Ces États-là sont indépendants, ils peuvent avoir des unités qui peuvent se déplacer le long des frontières. Ces États-là sont souverains et ils sont vraiment à même de lutter contre ces djihadistes-là, parce qu'ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas plus que, qui ne représentent même pas le dixième de toutes ces forces-là réunies. Il suffisait vraiment de mettre en application les droits de poursuite et aussi mettre à contribution les partenaires qui sont là. Et les populations s'interrogent même pourquoi ces partenaires occidentaux sont là et qu'il n'y ait plus d'attaques au moment où ils sont présents. Et continuer vraiment à traquer les djihadistes par les armées régulières dans un pays ou dans un autre.
C'était l'éditorialiste Moussa Aksar, joint à Niamey.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au sommet de l'Union africaine à Nouakchott, la lutte contre la corruption est au cœur des discussions pour trouver une solution commune pour lutter contre ce fléau qui fait perdre à l'Afrique, selon les Nations Unies, 25% de ses richesses annuelles. Pour analyse, Irénée Hermanoungbo a joint à Dakar Jacques Abibsi. Il est le président de Aide Transparence, une ONG spécialisée dans la gouvernance et la lutte contre la corruption.
C'est une question qui revient, qui est récurrente depuis plusieurs décennies, mais il faut bien reconnaître malheureusement que les chefs d'État n'ont fait que des efforts non seulement très lents, mais en fait des efforts qui n'ont souvent rien donné. Avec quelques exceptions, comme celle du Rwanda par exemple, ou celle du Botswana, Est-ce que cette fois-ci, les choses se feront différemment, au-delà des vœux pieux et puis des déclarations de bonnes intentions? Je ne le crois sincèrement pas.
Venez de citer quelques exemples, notamment celui du Rwanda. Oui. Et il se fait que c'est le président rwandais aujourd'hui qui assure la présidence de l'organisation régionale. Êtes-vous optimiste quant aux résultats qui pourraient être obtenus à l'issue de ces assises?
Le président du Rwanda est un homme de vision, mais tel n'est peut-être pas le cas pour tous les pays. Ils n'ont pas la même histoire non plus, il faut se rappeler cela. Je crois que le dénominateur commun de la plupart des États d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Nord et du Sud, c'est que la question du parti-État n'a pas encore été réglée. En ce sens que l'État continue d'être une situation de rente à travers laquelle les apparatchiks des partis au pouvoir ne se gênent pas pour puiser dans les caisses de l'État. Et donc, ce qui leur assure l'impunité, le plus souvent la plus totale.
Vous semblez assez pessimiste quant à l'aboutissement de résultats concrets pour ce qui concerne la lutte contre la corruption sur le continent.
Écoutez, malgré toute la confiance que je puisse avoir en les capacités du président du Rwanda, en règle générale, on peut observer que on peut pas développer un pays qui puisse devenir un îlot de bonne gouvernance, un îlot de démocratie à l'intérieur d'un océan de prévarication, d'un océan de malgouvernance. C'est impossible.
Jacques Abepsi, président de Air Transparency, une ONG spécialisée dans la gouvernance et la lutte contre la corruption.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En République centrafricaine, la polémique autour de l'initiative de l'Union africaine pour la paix. Plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques sont hostiles à ce projet, prévoyant un dialogue entre le pouvoir en place et les groupes armés. Sur place à Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Pour une sortie de crise en Centrafrique, l'Union africaine a mis en place un panel de facilitateurs pour échanger avec les groupes armés et le pouvoir. Selon la feuille de route, un dialogue devrait être organisé uniquement entre les deux parties. Les organisations qui se sont montrées les plus hostiles à cette initiative, ce sont celles de défense des droits de l'homme. Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Nous avons réagi négativement à cette initiative. Lorsque le peuple n'est pas d'accord avec une démarche que vous avez engagée, la meilleure façon, c'est de se ressaisir, de s'arrêter et de demander l'avis du peuple. Or, malheureusement, nous avons constaté que concernant ce dialogue, vous faites aujourd'hui un sondage en République centrafricaine, vous allez voir que le peuple, toute entité confondue, ne veut pas de ce dialogue. Il y a des membres du gouvernement qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue. Il y a des membres du Parlement qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue. Il y a les membres de la société civile qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue.
Parmi les membres de la société civile qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue, il y a Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile centrafricaine.
De prime abord, ce n'est pas une solution, à condition qu'on centrafricanise suffisamment la démarche. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ainsi, si cette conférence-là ne s'adapte pas à ce que nous souhaitons, nous allons prendre les dispositions citoyennes pour que cette conférence ne se tienne jamais.
Dans le milieu politique, l'opposition démocratique donne un autre son de cloche. Les trois principaux partis qui sont l'URCA de Anissé Georges Dologuélé, le RPR de Alexandre Ferdinand Guindé et le parti de l'avocat Crépin Bolingouba sont favorables à cette initiative. Leur seule condition, l'intégration de toutes les forces vives de la nation dans les débats. Alexandre Ferdinand Guindé.
Première des choses, nous soutenons prenons la feuille de route de l'Union africaine. Mais nous disons que ce dialogue-là doit être inclusif. L'expérience a toujours prouvé que les dialogues avec un format gouvernement et groupes armés ont toujours donné des résultats négatifs.
En Centrafrique, de nombreuses personnes dénoncent un nouveau partage de gâteaux avec les bourreaux du peuple. Pour le pouvoir, il n'en est pas le cas. Évariste Ndamana, directeur de cabinet au secrétariat général du gouvernement.
Il est hors de question que des questions, par exemple, d'impunité, de partage de pouvoir soient évoquées. Donc c'est pour dire que les objectifs visés par ce dialogue, c'est arriver à un accord qui puisse permettre la mise en œuvre effective des recommandations issues du forum de Bangui, mais dans le strict respect de la constitution de notre pays.
Jusqu'aujourd'hui, aucune date n'est encore officiellement fixée pour la tenue de ce dialogue, dit-on à l'étranger. Freeman Sipila Bangui, VOA Afrique.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Sims Lumami. À la console, Bill Barber. Présentation, Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, Arakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisations terroristes, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres aux groupes, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ces militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue à